On parlait du Festival de Cannes 2019 où l'Algérie était récompensée, mais là, on parle du Festival de Cannes 1939, comme si vous y étiez, Laurent, à Orléans cette semaine, pour une compétition qui n'a jamais eu lieu, en fait.
Oui, parce que le 1er septembre 1939, à Cannes, les affiches du premier festival qui allait se dérouler pendant 10 jours ont été recouvertes, tout simplement, par les affiches de la mobilisation générale et de l'entrée en guerre. Donc, 80 ans plus tard, Antoine Debecq, avec la municipalité de Vanves, et puis surtout les deux filles de Jean Zay qui était alors ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts, ont décidé de rejouer le match, ou de jouer plus précisément, parce qu'il n'a jamais été joué. Voilà, donc j'ai rencontré Antoine Debecq pour, justement, qu'il nous raconte cette incroyable aventure de faire quelque chose qui n'a jamais eu lieu.
On refait l'histoire, on répare l'histoire, on invente l'histoire. C'est vrai que il y a quelque chose d'un peu expérimental qui m'a beaucoup plu. Quand Hélène et Catherine Zay, les filles de Jean Zay, sont venues me voir il y a 3 ans pour me mettre dans les mains comme ça cette idée de faire quelque chose autour de la création du Festival de Cannes, qui est la création de leur père, Jean Zay, en 1939, voilà, et à ce moment-là, j'ai répondu par l'idée de refaire, de rendre hommage, mais aussi de réparer, voilà, de non pas de faire comme si la guerre n'avait pas eu lieu, c'est pas du tout du révisionnisme, c'est réparer, voilà, c'est ça.
Vous lui trouvez des vertus pédagogiques à cette édition 1939 ?
C'est la vertu de Cannes, du Festival de Cannes. Toutes les éditions proposent une sorte d'état du monde, qui est un état du monde du cinéma, mais un état du monde de l'actualité. Et en 39, c'est passionnant, évidemment, d'avoir ces 30 films venant de beaucoup de pays, comme ça, qui disent, qui sont tous centrés autour de cette peur de l'avenir. Beaucoup des films, quand même, sont centrés sur ce contexte-là, surtout de voir tout ça à 80 ans de distance. À la fois, on peut faire comme si... C'est de la cinéphilie expérimentale, comme si, voilà, tout d'un coup, on se replaçait dans l'idée de « Ah, le nouveau film d'Hitchcock, voilà, qui vient de sortir, qu'est-ce qu'il vaut ?» Bon, on peut jouer à ça, c'est tout à fait amusant. Et puis, en même temps, on peut aussi se dire que ces films, bon, ils ont aussi une résonance aujourd'hui, ou un certain nombre de motifs et de thématiques, je dirais, de l'histoire de 1939 sont pas très très éloignés de ce qui se passe aujourd'hui. La montée de l'extrême droite, c'est quelque chose qui nous fait très peur aujourd'hui. Et en voyant les films de 39, on peut en tout cas essayer de comprendre cette peur.
Quel film vous mettriez en avant? Pas de Palme d'Or, puisque ça n'existait pas, là ce serait un anachronisme total, mais quel film quand même pour vous ressort de cette édition 39?
Alors moi j'ai une petite tendresse, mais je suis pas le seul, pour Elle et lui de Léo Macaré, qui est un film absolument génial, à la fois bouleversant et tellement élégant, juste. Je donnerais volontiers le Grand Prix Jean Zay, puisque c'est ça que Amos Gitaille décernera samedi, à ce film. J'espère qu'on le retrouvera dans le palmarès, oui.
Palmarès ce soir.
Ah, palmarès ce soir.
Quel suspense.
Alors lui, il était à Cannes. C'est Little Joe de la réalisatrice autrichienne Jessica Osner. Alice est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très particulière, rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. Si on la conserve à bonne température, si on la nourrit correctement, on lui parle régulièrement, la plante rend son propriétaire heureux. Film de science-fiction parano, donc film de genre dans un film d'auteur, désossé d'incarnation, recouvert d'ennui, un film glacial et poseur.
Ah oui, tout à fait. On peut pas dire mieux ou pire, en tous les cas. On dirait du Lantimos apathique ou alors du Jésus lyophilisé, au choix, on verra. Mais enfin, en tous les cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Ah bon.
Ça s'appelait Little Joe, pardon.
Oui, voilà. Pardon. Oui. Le Mans 66 de James Mangold, l'auteur entre autres de Copland et Walk the Line ou Logan. Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carol Shelby, c'est Matt Damon, et son pilote britannique Ken Miles, c'est Christian Bale, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 66. Franchement, je ne m'intéresse pas du tout à la course automobile et même je ne comprends surtout pas l'enthousiasme qu'elle génère. Et je vous jure que ces 2h32 de film m'ont captivé tellement l'histoire de ce grand duel Ford-Ferrari est bien racontée de façon humaine et à la fois trépidante, élégante, sans effet de mise en scène, plutôt classique, même pour encore mieux correspondre à l'époque, les années 60. Dans les coulisses, la mécanique, les rivalités et la sensation de la course vécue est tellement bien ressentie par ce dingue de Christian Bale, hurlant dans son bolide son enthousiasme quand il dépasse son rival, et puis Matt Damon, son mentor, son ami, puisque c'est aussi une grande histoire d'amitié, le coachant au bord du circuit, son humeur, son ironie, son charisme. J'ai déjà envie de revoir le film rien que pour cette scène où il fait tester son prototype à Henry Ford, tétanisé de peur et d'enthousiasme. Ajoutez à cela le suspense que moi je connaissais pas la fin. Et c'est encore mieux, ça s'appelle Le Mans 66. Allez-y. Le bel été de Pierre Creton, Laurent. Robert, Simon et Sophie vivent au bord de la Manche dans un quotidien d'habitude. Nessim va entrer dans leur vie, suivi d'enfants que la situation politique de l'Afrique menace. Tous ont traversé la Méditerranée pour se réfugier en France. Ils vont vivre tous ensemble en Normandie le temps d'un été.
Oui, bon, c'est un peu un objet cinématographique non identifiable. Ça mêle effectivement trois jeunes réfugiés qui jouent leur propre rôle avec des acteurs professionnels dont Mathieu Amalric en garagiste. Alors on y croise Jean Genet, Virginia Woolf, des gens qui font du jardinage, des gens qui font une tarte aux pommes, des amours estivales, des baignades, la voix off d'une écrivaine qui nous rappelle tout un contexte littéraire et cette affectation du cinéma d'auteur français. Voilà, alors à force d'effleurer les choses, à force d'être allusif, à force du presque rien, Pierre Creton, le réalisateur, prend tout juste le risque de laisser son spectateur sur le bord de la plage, on voit beaucoup de plages dans le film, et puis de voir le film se lancer à l'eau sans le spectateur, ce qui est un peu dommage malgré tout. Ça s'appelle Le Bel Été.
Noura rêve de la réalisatrice tunisienne Hinde Boujema. 5 jours, c'est le temps qu'il reste avant que le divorce entre Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura, qui rêve de liberté, pourra alors vivre librement avec son amant l'Assad. Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu et la loi tunisienne punit sévèrement l'adultère. Noura va alors devoir jongler entre son travail, ses enfants, son mari, son amant et défie la justice. Le tout en fil tendu donc pour jongler aussi avec cette société, cette justice tunisienne, on l'a compris, pas vraiment en faveur de la femme, doux euphémisme. Et cette procédure complexe et parfaite pour un scénario de fiction, de cette complexité qu'on a déjà vue dans le cinéma iranien, notamment celui de Faradi dans Une séparation, sauf que dans ce film-là, elle est bien moins subtilement décrite, à gros traits parfois, comme la violence du mari très chargée, pareil pour la police de Mesh avec lui. Voilà ce que je pensais et que je pense toujours avec un gros bémol positif lié au propos de la réalisatrice. Si j'ai été aussi loin dans cette vengeance, dit-elle, c'est pour faire accepter mon personnage féminin et ce qu'elle vit. Alors oui, parfois même au détriment du cinéma et de ses subtilités, il faut peut-être appuyer là où ça fait mal pour convaincre, surtout un public tunisien où le film va être présenté et où la réalisatrice a l'intention d'organiser des débats.
Oui, voilà, je pense que si on était aujourd'hui, si on émettait de Tunis, on ferait moins la fine bouche, c'est
oui,
évident, bien
c'est
sûr.
Vrai.
Voilà, on est en les cinéphiles que nous sommes sont un petit peu réservés sur des flottements et des invraisemblances de la mise en scène et du scénario. Reste que, effectivement, ce que dit le film, ce que dit ce Noura rêve, ce message,
ouais,
il est très important.
Rendre la justice, c'est un doc signé Robert Salis, un portrait de la justice par celles et ceux qui ont la responsabilité d'avoir à juger leurs semblables, Laurent.
23 juges et pas n'importe lesquels, hein, vraiment le haut de gamme de la justice française, dont un qui dit par exemple, les juges à Paris, je ne vous garantis pas que je n'ai pas broyé quelqu'un dans ma carrière. Et en écho, en quelque sorte, Renaud Le Breton de Vanoise, qui est le président du TGI de Bobigny, personnage très important, lui, il dit, il faut absolument se préserver d'humilier les personnes. Voilà, entre les deux rives, entre lesquelles ces juges et magistrats, haut placés, avec effectivement tout sur leurs épaules, le poids de ce qu'ils ont à juger. On passera sur la forme qui est presque télévisuelle et assez peu cinématographique et on restera sur cette citation du testament d'Orphée que dit François Perrier à la fin du film. Nous ne pouvons être condamné à pire, à juger les autres, à être des juges. Voilà ce que dit rendre la justice.
J'aimerais qu'il reste quelque chose. C'est aussi un doc signé Ludovic Cantet, qui a travaillé pour le mémorial de la Shoah en tant que documentaliste. C'est durant cette mission qu'il a découvert l'existence de la permanence photographique du mémorial. Tous les mardis de 14h à 17h30, il a vu des bénévoles accueillant des familles juives qui souhaitent faire don de leur archive personnelle. Il les a filmés dans un dispositif simple mais très parlant. Plutôt que d'être face à face, il les a assis côte à côte pour bien voir et le bénévole et le donneur des dons de documents précieux, lettres, photos, témoignages, objets gardés par les familles qu'ils souhaitent transmettre au mémorial. Certaines histoires racontées sobrement sont terribles et très belles. Écoute attentive, empathique de ces bénévoles. À l'arrivée, ce film, j'aimerais qu'il reste quelque chose, est un document qui sera bien sûr conservé par ce mémorial, parce que la boucle du souvenir ne sera jamais bouclée.
On rappelle que selon un sondage récent, un jeune sur cinq, et quand on dit jeune c'est 18-34 ans, ça concerne pas mal de monde, un jeune sur cinq n'a jamais entendu parler de la Shoah. Je pense que de ce point de vue-là, ce film est absolument nécessaire. Alors effectivement, une photo, un porte-cigarette, un petit bateau en bois, une étoile jaune, une vraie, pas celle qu'on introduit à tort dans une manifestation récente, tout ça dit effectivement des choses un peu à la façon de Perec ou de Modiano, avec, vous le disiez, la culpabilité des vivants.
Très rapidement, L'âme du vin, encore un doc, Marie-Ange Gorbanevski, encore le vin, Laurent ?
Oui, alors le vin du côté du terroir, mais aussi peut-être du terroir caisse, comme on dit, c'est-à-dire quand même que ça nous balade en Bourgogne dans des domaines où ni vous ni moi n'irons jamais, parce qu'on n'a pas l'argent pour ça, et quand on voit deux Japonais extatiques se balancer dans la gorge un Chambol Musil 1945, on se dit qu'heureusement en Bourgogne, il y a d'autres vignobles plus modestes, voilà, qui nous permettraient de mieux, au fond, atteindre la vérité de ces crus bourguignons.
On a 30 secondes pour deux cadeaux, Laurent.
Oui, deux cadeaux. Alors, deux cadeaux. L'un pour Lajli. Allez, tout de suite, c'est Quentin Tarantino, s'il vous plaît, chez Gallimard, une intégrale film par film. Pour vous, Giordano Gelardini, un collègue, enfin en tout cas un collègue écrivain qui a pas mal été adapté, il paraît. Hein. Stephen King, anthologie de Stephen King à l'écran, c'est chez Hachette. 80, plus de 80 adaptations. On n'a pas aussi dit qu'on avait deux festivals, oui, à vous proposer. Ouais. Un au nord, à Amiens, le FIFAM, jusqu'au 23 novembre. Un au sud, c'est une thématique. Les rencontres cinématographiques de Cannes, jusqu'au 25 également, avec beaucoup d'avant-premières et une attention portée au jeune public.